Déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À Déroulement du livre, aujourd'hui, nous vous présentons la seconde de deux émissions d'enseignement animées par le père Pascal Hyde, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, théologien, médecin et auteur. L'entretien s'intitule « Comment pries-tu? »
Quelques mots pour redécouvrir la prière. Dites-moi, frères et sœurs, quels sont dans la langue française les quatre mots les plus fréquents après oui et non ? Hein, il y a bonjour, bonjour et au revoir. Hein, bonjour, merci, s'il vous plaît, et pardon. Eh bien, bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon, ce sont les quatre grandes formes de prière. Alors ça, c'est important, vous savez, parce que souvent, notre prière, c'est de la demande. D'ailleurs, on voit bien, quand on demande à quelqu'un de formuler spontanément une prière, quand je demande aux enfants du catéchisme à la paroisse de prier, eh bien, ils demandent. C'est très rare que spontanément on dise merci. Or, c'est une des quatre formes de prière. Il n'y a pas de raison de privilégier la demande, c'est-à-dire le s'il te plaît, plus que les trois autres formes de prière. Il n'y a pas de raison. Alors, je ne vous dis pas seulement ça pour renouveler votre prière, mais pour voir la variété. Et d'ailleurs, ces quatre formes de prière, bonjour, c'est-à-dire l'adoration, s'il te plaît, c'est-à-dire la demande, merci, c'est-à-dire la louange, et pardon, c'est-à-dire le pardon, ces quatre formes de prière sont au cœur de la messe. On commence par « je confesse à Dieu » ou par le pardon. En plus, on a le « Gloria » ou le « Saint-Saint-Saint », qu'est-ce que c'est comme louange ? L'adoration, ô combien, quand le Christ est présent sur l'autel. Et c'est quoi le quatrième déjà ? L'adoration. Et la demande ? Et le Notre Père. Le Notre Père, c'est justement par excellence la prière de demande. Alors, un petit mot sur ces quatre grandes attitudes de prière. D'abord, l'adoration. Adorer, c'est savoir dire bonjour. Attendez, c'est très impoli de commencer la prière en disant « Seigneur, j'ai quelque chose à te demander ». Attendez, quand vous allez voir quelqu'un, vous ne commencez pas comme ça. Vous dites bonjour, comment ça va ? Et puis vous savez, il y a tout un rituel. Dans certains pays, ça dure très longtemps d'ailleurs. Hein ? C'est important ça. Hein ? L'adoration, c'est quoi ? C'est un acte intérieur, hein ? C'est une disposition intérieure qui vous met en présence de Dieu. Quand on prie face à quelqu'un. C'est une des grandes différences entre le Nouvel Âge et nous. Dans le Nouvel Âge, on prie. Je me rappelle un prêtre qui disait, mais vous savez, oui, dans le Nouvel Âge, on prie. Nous, les chrétiens, on ne prie pas. Comment ça, on ne prie pas les chrétiens ? Non, non, on ne prie pas, nous, les chrétiens. On prie quelqu'un. On prie Jésus. On prie Marie. On prie l'Esprit Saint. Mais c'est très important, hein ? Souvent dans la prière, on a l'impression qu'on se raconte, qu'on est face à soi. La prière, c'est un acte objectif. Je suis en face d'eux. Et l'adoration, c'est d'abord reconnaître que Dieu est Dieu. Infiniment Dieu. Et d'ailleurs, le mot adoration, hein, l'étymologie d'adoration, ad os, c'est tourner sa bouche vers. Et la bouche ou la gorge, pour le juif, et pour nous chrétiens aussi, bien évidemment, c'est toute la personne. Dans l'adoration, je me tourne vers. On se tourne vers. Hein. C'est ça. C'est ça la prière. C'est ça l'adoration. Et c'est important, donc, on reconnaît non seulement qu'on est face à quelqu'un, mais que nous ne sommes pas Dieu. Et là encore, qu'est-ce que c'est important aujourd'hui de se rappeler cela? Quand je pense au succès d'ouvrages comme le Paolo Cello, que j'ai lu, là, 1 million d'exemplaires en France, là, hein, en effet, nous sommes tentés de nous confondre, de croire que nous sommes une parcelle de Dieu. Je me souviens d'un ami qui a mariné pendant des années, très très séduit par le bouddhisme. Il a dit « J'ai mis 1 an pour comprendre une chose, 1 an, pour comprendre que je n'étais pas Dieu. » Ça peut vous paraître énorme, hein, mais de fait, hein, pour se rendre compte que ma vocation, ce n'était pas de me fondre en Dieu. Et donc l'acte d'adoration, c'est de dire « Moi, je suis un être fini face à Dieu qui est infini. » Et je resterai toujours distinct. La communion d'amour n'est pas une fusion. La communion d'amour n'est pas une fusion. Au contraire, plus j'aime Dieu, plus Dieu me respecte. Et plus il y a à la fois une juste distance et en même temps une profonde communion. Rappelez-vous la chapelle Sixtine dans ce extraordinaire plafond quand on voit que Dieu crée Adam. Eh bien, il y a l'index de Dieu, il y a l'index d'Adam, eh bien, il y a une distance entre les deux. Cette distance est capitale. Donc l'adoration, donc, hein, vous voyez, c'est cette attitude. Et en même temps, l'adoration, c'est un face-à-face. Hein. Rappelez-vous le passage d'Exode 33 dans l'Écriture. Hein. Dieu parlait à Moïse face-à-face comme un homme parle à son ami. Que c'est beau, ça. Hein. Le chrétien n'est pas d'abord aplati, le juif non plus. Il est d'abord debout. Dieu aime les hommes debout. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'agenouiller à la consécration, vous comprenez bien. Hein. Mais là-dedans, il y a un respect extraordinaire de Dieu pour notre liberté. Dieu parlait à Moïse face à face. Et le catéchisme de l'Église catholique commente. Moïse s'entretient souvent et longuement avec le Seigneur, gravissant la montagne, aujourd'hui, hein, pour l'écouter et l'implorer. Il est à demeure dans ma maison, je lui parle bouche à bouche dans l'évidence. Étonnant, c'est une parole de l'Écriture aussi. Hein. Moïse est à demeure, hein, je lui parle bouche à bouche. Bien, donc ça c'est cette attitude d'adoration qui est tellement importante par laquelle donc, on reconnaît d'abord Dieu comme notre Seigneur. Comme infini, comme infiniment grand, et donc comme infiniment sage et infiniment bon. Même si on ne comprend rien, Dieu n'est pas Dieu s'il n'est pas infiniment sage et infiniment bon. La 4e prière eucharistique dit que Dieu a fait toutes choses avec sagesse et par amour. Que c'est admirable, ça, avec sagesse et par amour. Et l'attitude d'adoration, je vous dis qu'il avait touché Edith Stein. Le cardinal Danels, le cardinal de Malines-Bruxelles, dit que il n'a pas compris que Dieu existait en allant au catéchisme, mais en allant au marché avec sa maman. Et en allant au marché, sa maman s'arrêtait toujours à l'église, et elle s'arrêtait un moment pour prier à l'église, donc. Et il était extrêmement impressionné, disait-il, de voir le sérieux de sa maman. Il dit, mais si elle est aussi sérieuse, c'est que celui à qui elle parle doit être très sérieux aussi. Il dit, mais donc Dieu est. Rappelez-vous Saint Benoît-Joseph Labre, hein, le saint des mendiants, hein, qui avait de la vermine sur lui. Ne vous inquiétez pas, personne n'en avait autour de lui. Eh bien, ce saint, qui donc devait se gratter, hein, pouvait rester pendant 4 heures d'affilée à genoux sur une dalle à prier sans bouger du tout. Et ceux qui l'observaient se disaient « Mais c'est impossible sans qu'il y ait la grâce de Dieu. Toute personne qui a de la vermine se démange en permanence. » Et donc son attitude, là encore, a montré à quel point il était en adoration. Dire merci, hein, dire bonjour, c'est adorer Dieu. Dieu plus grand que tout. Et donc Dieu infiniment bon. Dire merci, hein, c'est rendre grâce à Dieu. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué quand je suis allé en Terre Sainte, la première fois, c'était le père dominicain Jacques Fontaine qui faisait ce pèlerinage s'appelle Bible sur le terrain, et il avait une phrase que je trouve est une des phrases les plus profondes que j'ai jamais entendues. Il disait « L'action de grâce, c'est la clé de l'harmonie universelle. » L'action de grâce, c'est la clé de l'harmonie universelle. Oh, que c'est juste, que c'est juste. Pourquoi ? Ben, regardez, le bonheur de Dieu, c'est de donner. Je dis bien, c'est son bonheur, puisque Dieu n'est que don, c'est de donner. Alors, imaginez un petit peu, hein. Dieu donne, ça c'est la création, et la création, plus encore le salut, qui est l'achèvement même de la création, Dieu donne. Quelle est l'œuvre de l'homme qui est à l'image de Dieu ? Eh bien, Dieu en quelque sorte n'a fait que le demi-cercle, il a donné. L'œuvre de l'homme, c'est de retourner vers Dieu. Mon job à moi, c'est de faire la moitié du chemin. Alors, vous inquiétez pas, Dieu est là pour nous aider, hein. Mais Dieu se donne et nous sommes appelés, nous, à retourner vers Dieu. Eh bien, retourner vers Dieu, c'est louer Dieu. Ce que Dieu donne comme grâce, je lui redonne en action de grâce. Ça, c'est ce que saint François d'Assise avait tellement bien compris. Voilà, donner, donner et redonner. Hein. Et en action de grâce. C'est pour ça que c'est le saint de la louange. Il voit bien que toute la création loue Dieu. Alors, voyez, pour louer Dieu, il y a deux manières de louer Dieu. La première, c'est de louer Dieu pour ce qu'il nous donne. Alors dans ce cas-là, si on sent rien, on ne va pas le louer, puis on va être triste. Et c'est pas rare qu'en effet, on loue Dieu seulement pour ce qu'il va nous donner. Ça, c'est la louange qui vient d'une certaine espérance. Mais il y a plus profond que ça. On peut louer Dieu non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Or, Dieu est toujours le même. Si vous le louez pour ce qu'il est, vous aurez toujours une raison de le louer. Parce que Dieu est toujours bon. Et que là, ça ne changera pas. Vous connaissez l'histoire qu'on attribue à saint François d'Assise. On doit la connaître par cœur, mais c'est pas grave. Hein. Je me risque à vous la raconter. Vous savez, saint François d'Assise louait toujours le Seigneur pour tout. Vous savez, merci pour frère Soleil, merci pour sœur la pluie, etc. Puis il y a un frère qui en avait un peu assez. Alors, un moment, il y a un oiseau qui passe auprès de François et qui s'oublie, qui laisse un petit quelque chose. Alors le frère, avec un petit air narquois, se dit « Ah, voyons un petit peu si François... Qu'est-ce que François va maintenant dire hein ?» L'oiseau s'est oublié sur François. Et François voit, et puis, avec un grand sourire, se tourne vers le ciel et dit « Oh, merci mon Dieu !» de ne pas avoir donné d'ailes aux vaches. Alors vous savez que la louange, c'est le grand remède contre la jalousie. La jalousie, qui n'est pas jaloux ? On a très honte de la jalousie. C'est malheureusement quelque chose qui nous touche tous, hein. Et c'est l'exemple que nous donne le roi David. Vous savez, le roi David qui devait consoler Saül, qui était malade de jalousie. Et pour le consoler, alors il ne mettait pas du Simon & Garfunkel, il n'avait pas à l'époque, mais il jouait de l'harpe, de son kinnor. Et c'est grâce à la louange qu'il pouvait adoucir le cœur de Saül. C'est la louange. Par la louange, je me sors de la tristesse qui me mord le cœur. La jalousie, ça me ronge le cœur. Par la louange, je vois qu'en face de moi, il y a du bien. Seigneur, merci pour la réussite de l'autre. Merci pour le bonheur qu'a l'autre. Tant mieux pour lui, ça ne me retire rien à moi. Qu'est-ce que c'est important, ça ? Le jaloux a toujours l'impression que le bonheur de l'autre lui fait ombrage. Par la jalousie, justement, je sors de moi pour bénir Dieu. Et très important, je rajoute aussi pour le jaloux, n'oubliez jamais qu'au fond de la jalousie, il y a un manque d'estime de soi. Toujours. le jaloux ne s'aime pas lui-même. S'il s'aimait lui-même, eh bien, il ne serait pas triste si on disait du bien de l'autre, parce qu'il aurait confiance dans le bien que Dieu dépose en lui. Ah voilà, hein. La louange, dire merci, hein, c'est dire Alléluia, hein. Alléluia, louer Dieu, en hébreu. Troisièmement, dire pardon. Alors là aussi, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut beaucoup d'humilité, hein, pour dire pardon, notamment en couple. Je me souviens de ce fiancé à qui je posais la question dans la préparation au fiancé. Mais est-ce que vous vous dites pardon ? Oh, disait-il, ce n'est pas la peine, parce que quand je pardonne, ma fiancée le voit. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle n'a pas besoin de le voir, elle a besoin de l'entendre. Et le signe que votre cœur est ouvert, c'est que vos lèvres s'ouvrent. C'est Saint Jean de la Croix quand il disait que l'amour et l'amour propre, ça ne fait pas bon ménage. Il faut beaucoup d'humilité pour s'ouvrir quand on boude. Vous avez remarqué ? La bouderie. Bon, passons, il y a tellement de choses à dire sur la bouderie. Et donc, le pardon nous fait sortir, justement. Et donc, il y a une prière de pardon. On demande pardon à Dieu de bouder. Alors, je sais bien qu'il y a des fois où on souffre. C'est un des obstacles à la prière aussi, hein, que j'ai pas nommé tout à l'heure, mais il y a celui qui demande à Dieu de tout faire. Il dit, Seigneur, je te fais confiance, donc tu t'occupes de tout. Est-ce que je peux raconter une histoire juive, mais gentille, hein, bien sûr, hein, hein. C'est l'histoire de ce juif qui voulait absolument gagner au loto. Alors, il prie le Seigneur, mais Seigneur, je veux gagner au loto. Alors, il prie, puis il gagne pas au loto. Puis il prie un an, deux ans, trois ans, puis il gagne toujours pas au loto. Et voilà qu'un jour, son voisin du dessous gagne. Alors, il est fou furieux. Comment, toi, l'Éternel, tu fais gagner quelqu'un au loto? En plus, c'est un goïm, en plus, il est même pas juif. Attends, c'est une honte, Seigneur. Et le Seigneur écoute sa prière et lui répond. Mais tu sais, moi, je voudrais bien que tu gagnes au loto. Au moins, achète un billet. Alors, je racontais cette histoire à une personne célibataire d'un certain âge qui se plaignait de ce qu'en effet elle était célibataire. Alors, je lui pose naïvement la question, ben, est-ce que vous rencontrez des personnes ? Est-ce que vous faites des dîners pour rencontrer ? Ah, non ! Le Seigneur s'occupe de moi. Alors, je lui raconte cette histoire. Quelque temps après, elle me téléphone en disant « Eh bien, j'ai acheté mon billet de loto. J'ai fait un dîner où j'ai invité du monde. » Eh oui, hein, que c'est important. Hein, vous savez ce que dit Saint Ignace de Loyola, hein, « Faites tout comme si tout dépendait de vous. Attendez tout comme si tout dépendait de Dieu. » Faites tout comme si tout dépendait de vous, attendez tout comme si tout dépendait de Dieu. Et donc, hein, il y a une manière en effet de prier en se dérobant, en fuyant sa liberté qui ne respecte pas ce don de la liberté qui est présent en nous. Et dans ce cas-là, en effet, tôt ou tard, il y a une révolte qui va monter en notre cœur. Alors, donc, la demande de pardon donc, hein, est essentielle. Et elle nous fait prendre conscience de notre liberté et de notre responsabilité face au mal. Non pas pour être écrasé, mais pour que Dieu puisse nous donner la joie de son pardon. Rappelez-vous le psaume 51, extraordinaire parole. « Rends-moi la joie d'être sauvé. Rends-moi la joie d'être sauvé. » Et être sauvé, c'est être pardonné, c'est pareil. Vous entendez bien cette phrase, hein ? « Rends-moi », c'est-à-dire on la perd toujours, cette joie. « Rends-la-moi ». Et c'est une joie. Je me souviens de cette personne me disant, qui avait fait un an d'école d'évangélisation à Paray-le-Monial, elle me disait « En un an d'école d'évangélisation, je n'ai découvert qu'une seule chose, mais elle remplit mon cœur, elle le ravit. » j'ai découvert que j'étais sauvé. Si on vivait comme des sauvés, comme des êtres pardonnés. Nous ne sommes pas des purs, frères et sœurs. Nous sommes des purifiés. Ce n'est pas la même chose, il n'y a pas de purs parmi nous. Nous sommes des pardonnés, tous. C'est donc des êtres aimés. Enfin, la demande, la prière de demande, que c'est important. Prier, c'est aussi dire à Dieu « s'il te plaît ». Demandez, vous recevrez. Donc, c'est vraiment une invitation très pressante de Dieu de demander. Et si l'on ne demande pas à Dieu, si on ne prie pas Dieu, eh bien, il y a des choses qui n'arriveront pas. C'est Jacques Maritain, un grand chrétien, qui disait la chose suivante. Il disait, pour qu'il y ait de la pluie, il faut des nuages. Évident. Et s'il n'y a pas de nuages, il n'y aura pas de pluie. Eh bien, s'il n'y a pas la prière, il y aura des choses qui ne viendront pas. Parce que la prière, c'est une des causes, on pourrait dire. C'est un des processus, comme j'ai pas le mot, qui fait partie du monde. S'il n'y a pas telle prière, tel effet ne se produira pas. De même que s'il n'y a pas de nuages, il n'y aura pas de pluie. Est-ce que vous mesurez, frères et sœurs, l'importance de la prière et le pouvoir que nous avons sur le cœur de Dieu ? Dieu nous a donné cette dignité de pouvoir prier pour obtenir des choses que nous n'obtiendrons pas si nous ne prions pas. Ça, c'est la première chose à bien entendre. La prière, c'est totalement vital pour nous et pour le monde. Attendez, je dis vital. Dites-moi, vous êtes vivant combien d'heures par semaine ? Combien d'heures par jour vous êtes vivant ? 24 heures sur 24 ? On a l'impression que certains chrétiens sont vivants une heure par semaine quand ils vont à la messe. Quand je vous dis que la prière c'est vital, vous comprenez que ça doit vraiment être le cœur de notre cœur, notre vie. Alors j'entends l'objection. Ah mon père, c'est bien gentil ce que vous dites, demandez et vous recevrez. Eh bien moi, je demande et je n'obtiens rien. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à cela. D'abord, on demande, mais souvent on ne sait pas remercier. Un petit exemple tout simple, j'ai remarqué que à la fin du mois de juin, plutôt à mi-juin, au moment du baccalauréat, il y a une augmentation de la consommation des cierges. Ce que je trouve légitime. Par contre, début juillet ou mi-juillet, donc on a les résultats du baccalauréat, d'après les statistiques, il y a 80% de réussite. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait 80% des cierges qu'on avait achetés au mois de juin qui étaient vendus. Autrement dit, on nous joue toujours le syndrome des 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul sur 10 qui vient remercier. Donc déjà, nous sommes très souvent des ingrats. Mais ce n'est pas ça la question de fond. Par rapport à la prière, prier, ce n'est pas exiger. C'est prier, je vous en prie, je vous demande. Quand j'exige, eh bien finalement, qu'est-ce qui est premier ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'objet de ma prière ? Bon, c'est rude, je sais qu'il y en a qui souffrent et qui portent des fardeaux épouvantables. Mais quand même, posons-nous vraiment la question. Je me rappelle cette personne me disant « Oui, je sais bien qu'on prie Dieu, mais finalement, il a enfin fallu que je fasse cette retraite pour que je comprenne la chose suivante. Dieu n'est pas un moyen. Dieu, c'est le but. » Et vous savez, il y a une manière de prier et d'intercéder et d'assiéger le ciel et de, finalement, comme dit Jésus, de rabâcher comme les païens, qui est un manque de confiance. Je ne parle pas des prières pour nous. Je pense régulièrement, je vois des mères de famille qui me parlent de leurs enfants. Dès qu'elles font un pèlerinage, dès qu'elles prient, dès qu'elles disent une messe, c'est toujours pour cet enfant qui n'est pas converti, pour cet enfant qui n'est pas encore heureux, etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ces personnes-là sont révoltées. Mais finalement, est-ce que elles n'ont pas fait Dieu un moyen en vue de ce qui pour elles devrait être le bonheur, à savoir que leur enfant soit heureux. Je comprends. Mais attendez. Pour ces personnes-là, régulièrement, je leur dis, eh bien, arrêtez de prier pour cet enfant. Oh, mais mon père, vous n'imaginez pas, si j'arrête de prier, qu'est-ce qui va se passer? Ben d'abord, vous trouverez peut-être un peu plus de paix. Hein. Et peut-être aussi plus de confiance. Parce que la communion des saints se chargera de ça. Vous reprendrez la prière pour cette personne-là quelque temps après. Mais pour l'instant, redécouvrez les autres formes de prière. Redécouvrez la louange. Redécouvrez l'adoration. Et aussi le pardon. Ce n'est pas de pas assez prier, mais de trop demander qui fait souvent le lit de la révolte. Et donc une prière qui n'est pas ajustée. Il y a besoin, vous voyez, donc de réordonner constamment notre prière à Dieu, qui est plein d'amour et de sagesse. S'il a fait toutes choses avec amour, par sagesse et avec amour, eh bien, il sait. Et puis dites-vous une chose, hein. Thérèse a prié toute sa vie pour des personnes dont le cœur n'a pas changé. Mieux que ça, Jésus a prié, ô combien Jésus a prié. Rappelez-vous en Saint-Luc, Jésus prie et choisit ses 12 apôtres, dont Judas Iscariote qui va le trahir. Judas a prié toute sa vie publique pour Judas, et extérieurement parlant, au moins, on n'a pas vu la conversion de Judas. Donc ne vous culpabilisez pas et ne croyez pas que votre prière n'est pas écoutée par Dieu. Malheureusement, le cœur de l'homme ne nous appartient pas et nous avons malheureusement aussi la capacité de nous enfermer. Je ne parle pas de nos voisins, je parle pour nous. Et donc, là-dessus, notre prière n'a pas toute puissance sur l'autre. Et toujours pour répondre à cette question de « mais je prie, je ne suis pas exaucé », n'oublions pas qu'il est important de purifier notre désir. Prier, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit cela, il dit « la prière, c'est l'interprète de notre désir devant Dieu ». Et finalement, saint Thomas continue en disant « la prière nous fait désirer ce qui est bon pour nous ». La prière purifie notre désir. La prière, c'est l'acte même de l'espérance. Eh bien, par la prière, petit à petit, j'apprends à orienter mon désir vers Dieu. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la prière par excellence, c'est le Notre Père. Pourquoi ? Ben, finalement, le Notre Père, c'est une prière très très importante, le Notre Père, bien évidemment, parce que Jésus nous l'a enseigné. C'est une prière qui, d'ailleurs, a converti, hein. Les personnes qui ont été guéries par notre Père, c'est inouï, hein, guéries ou converties. Hein. Dimitri Panin, qui est l'ami d'Alexandre Solzhenitsyn, a été converti en disant notre Père. Hein. Tatiana Goritcheva, hein, dans Nous convertis d'Union soviétique, a été convertie en disant notre Père. Les pères de l'Église, les saints docteurs ont commenté très souvent notre Père. Pourquoi ? Parce que le Notre Père, c'est le résumé même de ce que doit être notre désir. Donc de ce que nous avons à demander. Et c'est pas si évident que ça, hein. Si vous prenez le Notre Père, est-ce que nous savons que spontanément, le premier objet de notre désir, hein, c'est-à-dire celui auquel on doit aspirer avec toute sa force, c'est « que ton règne vienne ». Spontanément, en fait, ce qui occupe la première place chez nous, hein, c'est plutôt ce qui est urgent, ce qui nous oppresse, ce qui est lié aux difficultés de la vie. Eh bien, le Notre Père nous apprend que ce qu'il y a de plus urgent à demander, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pas ma, que ta volonté soit faite. Et donc, le Notre Père, c'est l'interprète même du désir, donc c'est pour ça que c'est la prière et la demande par excellence. Alors, je termine, pour que vous ayez un temps pour vous reposer. Alors, vous savez, l'essentiel dans la prière, et le but finalement, ce que Dieu veut pour nous dans la prière, c'est nous faire découvrir ce qu'est l'amour. Ça nous fait découvrir la gratuité de l'amour, c'est-à-dire la gratuité du don. Alors, c'est pas le père Jacques Philippe qui me susurre ça dans l'oreille, hein, puisqu'il vous a parlé de donner. Hein. C'est-à-dire, comme disait mon voisin, vous avez remarqué, on a l'impression que c'est la personne qui est dans le cadre, là, Louis Martin, qui est descendu, hein, les lunettes en plus, hein, pour vous parler du don. Alors, c'est vrai qu'il y a le don en argent, qui est une manière de bien manifester, hein, notre amour, mais la prière, c'est par excellence le lieu du don gratuit. Dans la prière, finalement, qu'est-ce que Dieu veut ? Il veut nous apprendre à aimer. Et si, parfois, et même souvent, notre prière est aride, eh bien, réjouissons-nous. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui conduit. Et s'il ne veut pas que nous ressentions quoi que ce soit dans la prière, c'est parce que il ne veut pas que nous nous cherchions nous-mêmes. Et Dieu, qui est infiniment sage, donc mesure exactement les consolations et les désolations dont nous avons besoin. Qu'est-ce que c'est précieux, ça, frères et sœurs ? La prière est le seul lieu où nous puissions vraiment purifier le don de nous-mêmes. Parce que Dieu conduit. Si nous acceptons d'être fidèles tous les jours à la prière, de ne pas nous chercher nous-mêmes, hein, de demeurer fidèles autant que nous donnons au Seigneur, petit à petit, il va nous permettre de vivre dans un véritable don où, finalement, c'est lui en premier qui compte, pas nous, lui. Et alors là, vous découvrirez la seule joie qui dure, qui est la joie du don. Une joie qui n'est pas tournée sur soi, mais qui est tournée vers lui. Et là, vous pourrez vraiment vivre ce don auprès de vos frères, avec la même gratuité, sans vous chercher vous-même et sans vous attrister de ce qui ne vous rende pas en retour. Seigneur notre Dieu, toi, dans toutes les sens, dans tout l'être, est de te donner à nous. Toi, Seigneur Esprit Saint, toi dont Jean-Paul II nous dit que tu es la personne don, viens en nos cœurs, répands ton amour en chacun de nous, que nous puissions découvrir dans la prière combien tu es présent en nous, combien dans le tabernacle de nos cœurs tu nous cesses de murmurer que tu nous aimes, combien tu nous appelles à ta suite, à vivre d'un don sans retour, sans retard et sans restriction. Amen.
À déroulement du livre, vous venez d'entendre le père Pascal Hyde, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, théologien, médecin et auteur.